Menstruer les sacs à dos saison 2. Une émission consacrée à la transmission des savoirs, à la création d'outils, mais aussi à la conception de projets. Nous allons rencontrer des acteurs du patrimoine en Bretagne et ailleurs. Nous allons évoquer des objets, des lieux, des métiers. Allez, on vous le dit, nous allons parler de médiation en archéologie. Mais c'est quoi donc ?
Bienvenue dans Truelles et Sacs à dos. L'émission de ce jour est réinvestie par 5 étudiants de Céline Kergonan en master de médiation à l'Université de Rennes 2, Frédéric, Leslie, Louise, Océane et Youn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Clotilde Chamussy, vidéaste et créatrice de Passé Sauvage, une chaîne YouTube spécialisée dans la vulgarisation en archéologie et en anthropologie. Ceci est la suite de l'entretien. Notre invité continuera de répondre à nos questions, notamment sur le sujet du genre en archéologie.
Est-ce que tu penses que le féminisme a apporté un nouveau souffle dans le monde de l'archéologie et dans ton métier de vidéaste ?
Alors moi, j'ai été vraiment agréablement surprise. L'année dernière, j'ai eu la chance de mener un échange entre deux archéologues qui font partie du collectif Peyta Truelle, Laura Marie, et alors je ne crois pas qu'elle fasse partie du collectif l'autre personne, Isabelle Algrin, qui est chercheuse, qui est spécialiste de la céramique grecque. C'était à la bibliothèque municipale de Lyon, de Lyon-Pardieu. Et en fait, dans le public, il y avait une audience extrêmement jeune, des étudiants, autant femmes comme en archéologie, qui étaient venus nous écouter. Et moi, ça faisait 5 ans que j'avais pas vraiment revu d'étudiants en archéologie. En tout cas, dans les étudiants que j'avais croisés, c'était ma promo. Et en fait, j'ai été frappée par la motivation et l'intérêt pour ces sujets, la motivation pour déconstruire ce qu'ils ont lu dans des livres qui commencent à dater, et notamment à se permettre de questionner les manques. Pourquoi dans ce récit, il n'y a même pas le mot femme, elles sont où en fait ? Voilà, c'est cette question. Ok, votre récit, votre rapport de fouille, il est passionnant, mais vous parlez des hommes qui déambulent de tel endroit à tel endroit, là ils ont un atelier de taille, ok, les femmes elles sont où ? Voilà, et en fait c'est juste cette question-là qui émerge et qui est répétée, et qui vraiment force le respect, parce que moi j'étais à des milliers de kilomètres de me poser cette question quand je faisais mes études. Ça c'est vraiment c'est là où ça peut bouger. Il faut miser sur la jeunesse, pas sur les chercheurs déjà bien ancrés. Ça viendra pas de leur part, parce que c'est pas le souci de leur génération. C'était pas leur préoccupation.
Est-ce qu'il y a de la solidarité entre les femmes dans ton métier ?
Moi, le sexisme, je l'ai pas rencontré en archéologie. J'ai rencontré le sexisme, mais comme tout le monde, dans la rue, dans le quotidien, dans les trajets quotidiens pour aller à la fac, voilà. La rue, l'extérieur, n'était pas l'espace des étudiantes et des femmes, point. Je l'ai rencontré via YouTube, dans ce métier d'image et où l'ego est surdimensionné, voilà. Et donc, heureusement, j'ai rencontré une très, très grande sororité, un énorme soutien de toutes ces femmes. Mais il a fallu le construire, hein. Ça n'a pas été un cadeau, quoi. Ça a été une construction de liens et un travail vraiment sur le long terme. En archéologie, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai été formée sur le terrain par des femmes. Toujours eu des chefs de secteur. Donc, évidemment, il y a les directeurs, directrices de chantier, mais ils viennent pas tous les jours sur le chantier et ils délèguent. Ils délèguent à des étudiants en master, en doctorat, le travail de terrain. Et en fait, j'ai toujours eu des femmes qui, par crainte, je pense, qui étaient terrorisées par le boulot qui leur était assigné et qui se transformait en tyran, disons-le clairement. En fait, qui adoptait les pires attributs masculins pour essayer de se faire respecter. Alors que, il n'y avait pas mutinerie en face. Mais ça s'est reproduit sur différents chantiers. Donc, comme si, encore une fois, ça disait beaucoup de l'éducation qu'on avait donnée aux petites filles qu'elles avaient été. Et encore une fois, un manque d'éducation dans le partage des tâches, l'organisation d'un groupe de travail, et c'était catastrophique. Et c'était vraiment hyper triste à voir, c'était très pénible à subir. Et c'était une espèce de, bah, en fait, c'est un, au départ, c'est du sexisme, au départ, mais bien, bien en amont. Et c'est une des conséquences, c'est un vieux rejet d'un sexisme très ancien. Mais voilà, c'est, mais j'ai pas été discriminée en archéologie, c'est-à-dire que j'ai pas loupé des contrats parce que j'étais une femme. Voilà, après, j'ai aussi une comparaison que je peux faire, bah, entre mon expérience et celle de mon compagnon, parce qu'on a fait les mêmes études, enfin, on s'est suivi pendant les études. On n'a pas étudié exactement les mêmes choses. Et lui, avant d'être diplômé, il a été embauché dans une boîte de préventif, d'archéologie préventive. Il a été très bien payé, très bien considéré en tant qu'archéologue technicien avant le master. Moi, au contraire, j'ai jamais réussi à mettre un pied dans l'archéologie préventive. Je suis toujours restée du côté de l'université avec des fouilles d'archéologie publique. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sous. Et j'ai une expérience catastrophique de la fouille. Enfin, c'était vraiment des conditions qui étaient délétères. Je ne peux pas dire pourquoi lui, il a eu une meilleure expérience que moi, même si à la fin, bah, on avait tous les deux pas de boulot. Lui, il a un parcours où il a des super souvenirs. Et moi, j'ai un parcours où j'ai des souvenirs catastrophiques. Je ne sais pas si là, le genre entre en compte. Pas non plus l'exclure. Voilà. En revanche, je me souviens d'une très grande fraternité sur les chantiers. Les groupes qui s'amusaient à fouiller, là où ça fonctionnait bien, c'était des groupes de mecs, et où les filles avaient trop envie de rejoindre ces groupes de rigolade et de franche camaraderie. Voilà, donc il y avait quand même une difficulté à se mélanger. J'ai l'impression que ça a un peu évolué, parce que du coup là j'ai passé l'été à aller filmer ces étudiants qui apprennent l'archéologie. Donc j'ai pu, voilà, enfin quand on filme, on a l'œil dans l'œil tourne la caméra et on zoome et on voit les expressions des gens et on voit qu'il y a quand même un mélange entre les étudiants. Les étudiants se sont toujours mélangés, mais par contre le terrain, comment on attribue la place entre les femmes et les hommes à des tâches, parfois ça casse un peu les dynamiques. Je trouvais que ça fonctionnait un peu mieux, même de la part des directeurs. Bon, ça doit dépendre des fouilles. On a commencé à parler du genre avec les objets masculins, féminins. Mais les objets qu'on utilise en archéologie, d'origine, ils sont genrés. D'origine, à l'origine, la pioche, la truelle, c'est des objets du bâtiment. C'est des objets qui ont été tellement utilisés par les hommes que du coup, il faut mettre un effort surhumain pour se les attribuer, pour que cette pioche devienne ton meilleur ami. Il faut vraiment il faut beaucoup plus de courage et de détermination. Alors, l'autre truc qu'on m'a dit, peut-être que ça change cet été, en fait, il n'y avait aucun... Les étudiants que je croisais n'étaient absolument pas familiarisés avec ces outils. Parce qu'en fait, ce sont majoritairement des étudiants... On perd de plus en plus quand même de la mixité dans les universités, paradoxalement. Hein, les écarts sociaux avec les crises économiques sont tels que, en fait, les jeunes lycéens des campagnes arrivent quand même moins dans les universités. Et on a majoritairement des citadins qui font leurs études. Des citadins, où c'est des gens qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas de champ, qui n'ont pas de grand-père grand-mère à la campagne, et qui ne connaissent pas du tout ces outils. Donc en fait, arrivent sur les chantiers des hommes et des femmes qui, là, sont sur un pied d'égalité. Ils sont absolument nuls pour se mouvoir sur un terrain, sur, s'accroupir, tenir une pioche, voilà. À tel point que c'est un peu stressant pour des directeurs et des directrices de fouilles, parce que ils ont une nouvelle génération qui est hyper à l'aise avec évidemment les écrans, les images, les drones. Ils peuvent te piloter le drone comme ça, le prendre en main en une heure. Tout ce qui est gymnastique, tout ce qui est physique, pas la même. Et ça, c'est assez nouveau. Et en même temps, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. T'es obligé de, y a pas d'avance, voilà. Ce qui était, il y a encore, 7, 8, 10 ans. Moi, quand je fouillais, j'ai commencé à fouiller il y a 10 ans. Tu l'avais, cette difficulté. Ça dépend des facs. Ouais, t'as vraiment, mais je pense que c'est dans tous les métiers, quand on arrive sur le milieu du travail, l'éducation qu'on a reçue, elle crève l'écran, quoi. Il y a vraiment et là, moi, quand j'ai filmé, du coup, ces apprentis archéologues, j'étais notamment, évidemment, il y a l'image, mais il y a le son. Quand on prend le son, ou quand même là, en ce moment, je dérush, je fais le montage de ça, je me rends compte que j'ai eu aucun mal à interviewer des garçons. Ils nous acceptent, ils n'ont pas peur de s'exposer. Pour autant, leur discours va pas forcément être, enfin, leur intervention dans l'image va pas forcément être très intéressante parce qu'en fait, souvent, ça déconne avec le groupe. Ça reste toujours dans la rigolade, comme s'ils ne prenaient pas au sérieux. Pas tous, hein. Souvent, c'est la première étape. On déconne et après, on prend au sérieux. Alors que les filles, elles étaient beaucoup plus difficiles à trouver. Elles étaient là, j'allais les voir, j'en disais, est-ce que vous voulez bien répondre à mes questions? Les voix étaient étouffées au niveau du son, là. C'est étouffé, c'est un peu masqué. Il faut 20 minutes d'interview pour que ça commence à se faire confiance. Ce qui est finalement, assez humain, en fait. Ouais, ils connaissent pas, font la rencontre de Clotilde, elles sont filmées, c'est hyper intrusif. Mais on a vraiment deux éducations très genrées qui ont leurs deux problèmes, quoi. Il faut réussir à normaliser un peu et l'image et le son, quoi, et la manière dont on se... L'attitude, voilà, les attitudes sont exacerbées. C'est triste parce que je pense que c'est un peu de gâchis, quoi, au final, là-dedans. Et je pense que l'une des solutions, c'est les modèles d'identification. Il faut absolument proposer à ces personnes qui ont la vingtaine des modèles d'identification, hommes et femmes, qui puissent se dire, j'ai ce problème-là pour parler en public, je déteste me montrer, être filmée, je ne pense pas qu'un jour j'arriverai à faire des études, à soutenir telle hypothèse, ce genre de choses, c'est que en ayant un modèle, en disant un tel, j'adore ce qu'elle a fait, j'adore, je sais pas, Marguerite Yourcenar, enfin j'en sais rien. Si elle l'a fait, je peux le faire. Enfin, mais moderne, moi je suis quand même un peu plus sur le modèle d'identification contemporain. Je suis en pleine défrichage, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment pour moi, parce que je ne l'ai pas croisé à l'université. Donc il a fallu que ça arrive un peu par accident, ou surprise, ou curiosité, donc ça prend plus de temps. C'était pas du tout dans mon cursus universitaire, vraiment pas du tout, du tout. Donc c'est vraiment un cursus personnel. Et donc, franchement, sans la découverte de Paita Truel, l'amitié que je peux avoir avec quelqu'un comme Laura Marie, je serais jamais arrivée à l'archéologie du genre. Donc c'est un coup de bol. C'est un coup de bol via Instagram, ce que permettent aussi les réseaux sociaux pour la diffusion de ces messages-là. Je suis vraiment en plein démarrage, quoi. Je démarre mon intérêt pour ces questions-là, même si je suis pas non plus une adhérente. J'adhère pas à tout. Après, je suis hyper intéressée, notamment l'expérience que j'ai pu faire l'année dernière avec le film Les femmes préhistoriques pour National Geographic. J'ai eu la chance de rencontrer donc plusieurs fois pour le tournage Marilène Patou-Matisse, qui est une préhistorienne qui a notamment écrit L'homme préhistorique est aussi une femme. Et elle a un discours hyper tranché qui m'a du coup énormément apporté, juste dans l'idée de pouvoir s'autoriser à penser différemment. Ça, c'est très très important, et c'est pour ça qu'il faut la lire. Elle a un côté punk un peu, c'est une espèce de Virginie Despentes de l'archéologie. La lire et l'écouter, c'est un voyage, parce que personne ne parle comme elle. Voilà, elle a vraiment sa voix à elle, donc ça c'est hyper important. Après, elle est dans ce que je partage pas du tout avec elle. Elle a un refus catégorique de l'anthropologie et de l'ethnographie. Elle part du principe que l'archéologie ne peut pas se baser, ne peut pas s'associer à l'anthropologie. Moi, ça, c'est un crève-cœur. Je peux pas adhérer à cette idée. Pour le coup, là, moi, je suis de l'école d'Alain Testard, pour qui l'anthropologie et l'ethnographie étaient les derniers endroits pour travailler l'imaginaire et essayer de récupérer un peu plus de matériaux pour les sociétés préhistoriques. Voilà, sans lui, pour lui, la préhistoire, on était complètement bloqué, à jamais bloqué sans l'anthropologie. Alors, il n'y a pas tout, Mathis, ça peut pas saquer Testard, donc on est en train de faire le grand écart, mais c'est ça qui est intéressant. Et l'autre chose que m'a apporté une expérience comme National Geographic, c'était que je voyais que, en fait, l'archéologie du genre et juste penser l'histoire des femmes, il y a 30 000 ans, énervait les gens. Ce sujet n'est pas pensé avec sérénité, alors qu'il s'est passé 30 000 ans. En fait, ça veut dire que c'est pas que des femmes ont vécu il y a 30 000 ans qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça dit, encore une fois, de notre société, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher comme préjugé. Et ça, visiblement, il y a un sacrifice à faire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts. Et malheureusement, ça ouvre à des dérives parfois pour absolument essayer de chercher une preuve, de trouver la preuve, de trouver ce qui prouvera que. Et ça peut, pour moi, une des dérives peut-être de l'archéologie du genre, s'il fallait quand même en citer une pour pas non plus être l'adoration, parce que moi, je garde toujours mon esprit critique. J'ai besoin de voir des choses. Et avec ce reportage, j'ai pu voir notamment la technique de l'indice de Manning, qui est une technique qui essaye de calculer la longueur des doigts, et cette longueur diffère entre les hommes et les femmes. L'index des femmes est toujours un peu plus court que celui des hommes. Sur le papier, je me suis dit, c'est génial cette théorie, super. Et je l'ai vu être mise en pratique pour qu'on puisse la filmer. C'était un fiasco. J'ai jamais vu un truc aussi honteux. Enfin, c'était du charlatanisme pur. Et en plus, on pouvait pas discuter avec la personne. Bah voilà, j'aurais vu quelque chose qui, sur le papier, il faut aller voir sur le terrain. Et ça, ce sacrifice-là, d'abandonner l'idée de l'indice de Manning, il y a plein de gens qui sont pas prêts à l'abandonner et ils n'ont pas vu l'expérience faite. Alors que quand on la voit, on peut pas y croire, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. La personne qui calcule ça, elle utilise un logiciel en open source et elle détoure rapidement les mains peintes sur la paroi et c'est, il y a aucune précision. Les points, enfin en fait là il y a un problème de génération. Là les gens qui font ça ne connaissent pas Illustrator, ne connaissent pas la suite Adobe et ils passent par, vraiment c'était du niveau à 10 bouts, enfin c'était risible. Mais ils savent très bien écrire. Par contre ils savent pas utiliser la suite Adobe et ils sont pas curieux au niveau informatique. Voilà, il y a ce truc là. Donc en fait il faudrait filer ce boulot à quelqu'un de jeune et qui sait parfaitement utiliser ces logiciels et faire. En fait ça veut pas dire qu'il faut pas pousser cette théorie de l'indice de Manning. C'est il faut le faire avec sérieux. Moi j'ai noté un manque de sérieux sur ces questions qui dit aussi beaucoup de choses sur le sujet des femmes. On prend pas ça très au sérieux. Et il faut quelques femmes qui se lancent dans des doctorats sans financement pour faire les choses sérieusement. C'est ça le problème. Il faut absolument ouvrir des doctorats, des chaires de recherche avec de l'argent. Il faut, mais comme on ferait des études pour la NASA. Enfin, c'est tellement difficile qu'il faut beaucoup de sous, quoi. C'est juste une question d'argent.
La question du genre a une place importante dans ton travail ?
L'archéologie du genre, essayer de trouver en archéologie la présence des femmes. En fait, ce qui m'aide à poursuivre dans ces recherches-là, enfin m'intéresser à ce sujet-là, c'est quand je questionne justement le manque d'infos et que je me rends bien compte que, par exemple, cet effort-là d'aller chercher les sources féminines, j'ai pu le faire dans d'autres disciplines. Moi, j'ai fait un bac L, première année de lettres modernes, où on devait lire un roman par semaine qui nous était imposé. Et durant tous ces mois de lecture intensive, je n'ai jamais lu un roman écrit par une femme. On ne m'a rien proposé. Donc je suis sortie d'études à 25 ans, j'avais lu que des hommes. Et j'étais persuadée, enfin en fait je me posais même pas la question, je me disais pas qu'il y avait plein de bouquins écrits par des femmes qui pourraient changer ma vie, qui seraient absolument des bases de ma construction. Et ça a été encore des coups de bol. Et donc, c'est une démarche personnelle. Ça fait maintenant 7 ans que je n'ai pas ouvert un livre écrit par un homme. Je peux plus. Je suis écœurée par cette littérature-là. J'y reviendrai. Un champ incroyable de poésie, d'inventivité, de science est arrivé en cherchant des écritures et des paysages imaginés par des femmes. Et donc, cet effort-là, j'ai pu le faire pour la littérature. Et donc, mon plaisir, mon loisir, mon divertissement. Mais ça demande un temps, une énergie invraisemblable. Encore que, voilà, en archéologie, moi j'ai eu des gens qui m'ont formé qui étaient des femmes. Je pense à Marie-Pierre Jézégou, je pense à Corinne Sanchez pour l'archéologie sous-marine. Donc j'avais quand même des modèles d'identification, mais c'était des femmes qui avaient décidé, par exemple, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de vie intime, de personnelle. Moi, c'est des choix que je veux pas faire ça. Donc c'était, encore une fois, c'était des sacrifices pour être dans un milieu d'hommes. Moi, il y avait un sujet de recherche, mon sujet de recherche pour le M2, questionner les manques en archéologie. J'étudiais des épaves, mais j'étudiais les épaves en... Quand on découvre une épave, vous imaginez, donc il y a le fond du bateau, et puis il y a les objets destinés à la vente posés dessus, un peu disséminés. Et pendant longtemps, on a étudié que ce qu'on voyait, c'est-à-dire les amphores. On a attribué une valeur inestimable aux amphores, et en fait surdimensionné. Les amphores n'ont pas beaucoup de valeur, en fait. C'est des bouteilles, hein, point barre. À partir des années 90, on s'est dit, mais il y a des gros vides, il y a des blocs d'amphores, un gros vide, bloc d'amphores. Et moi, mon travail, ça a été de me dire, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce trou? C'est un puzzle, et là, il y a une pièce qui manque. Qu'est-ce que c'est? Et mes hypothèses, c'était des paniers, des étoffes, des épices, des choses qui ont beaucoup, beaucoup plus de valeur quand on prend les archives. La pourpre, il n'y a rien de plus cher que la pourpre par rapport à des amphores. Donc, en fait, pour moi, l'archéologie du genre, c'est ça. Destituer des images d'Épinal, ces grosses amphores qui prennent vachement de place et s'intéresser au vide et imaginer par quoi c'était rempli, quoi ça ressemblait et quelle était la valeur. Et en fait, souvent, ce qui a de la valeur disparaît. Peut-être que les femmes ont toujours eu beaucoup, beaucoup plus de valeur. On le sait, il n'y aurait pas de mariage arrangé sinon. Une femme comme Françoise Héritier nous l'a écrit à plusieurs reprises dans tous ses bouquins, ou l'historienne Michel Perrault. Elles ont le pouvoir de vie et de mort. Voilà, tu peux gagner toutes les batailles que tu veux, tu peux ramener le plus gros butin de ta vie, tu n'auras jamais un tel pouvoir. Donc, à nous d'aller chercher les vides sans forcément aller tomber dans des inventions. C'est ça le futur de l'archéologie, je pense. Enfin, de toute façon, c'est ça. Les nouveaux doctorats, les nouveaux sujets de recherche questionnent les trous. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à la place, tout ce qui a disparu. Voilà.
Est-ce que tu dirais qu'il faut être engagé politiquement pour pouvoir parler d'histoire et d'archéologie ?
Aujourd'hui, il y a des historiens qui assument la neutralité n'existe pas en histoire. Alors, je lis peu de livres d'hommes, mais j'écoute beaucoup d'historiens, j'aime des conférences, voilà. Et j'ai aussi des modèles d'identification d'hommes, et notamment des historiens comme Johan Chapoutot ou Christian Ingrao, qui travaillent sur le nazisme, bref, pas du tout de l'archéologie, mais ils expliquent bien ça, et c'est des gens qui peuvent intervenir, notamment chez Mediapart, qui sont capables de critiquer la politique de Macron, voilà. Donc on voit bien que quand on fait des sciences humaines et sociales, on peut pas évacuer le fait que nos recherches, nos conclusions, aient une dimension politique. Après, ne pas être neutre ne veut pas forcément dire qu'on est militant. Moi, je suis pas militante, et j'ai pas ce statut, je ne consacre pas ce temps, et en fait, pour moi, le militantisme, c'est un travail. Ce n'est pas mon travail. Je serais très, très mauvaise pour ça. Et oui, il faut des personnes, sans doute, qui le font. Je pense que le collectif Paye ta truelle le fait très bien. Moi, je suis pas dans ces milieux-là, et je reste bien à ma place, c'est-à-dire à synthétiser des données. C'est ça mon travail, et à aller filmer sur place des choses. Et souvent, je vais plus filmer, par exemple, les touristes, filmer comment les gens regardent se passer. Et j'ai jamais fait d'interview d'acteurs de l'archéologie qui militent pour quelque chose. Je sais pas, tout simplement parce que j'ai pas pensé, ou voilà, j'ai pas cette sensibilité à aller faire ça. En revanche, oui, je me rends compte en fait de la dimension politique de l'archéologie dans les commentaires sous mes vidéos. Et c'est hyper violent. Alors, moi, ça me touche pas personnellement. J'ai une capacité à me foutre royalement des commentaires. Je sais pas, je suis née avec ce talent. Je sais qu'en ce moment, il y a des raids sous deux vidéos. Une vidéo sur les Khazars, donc l'origine du peuple juif, et sur l'afrocentrisme, où je me prends des dizaines et des dizaines de messages me traitant d'antisémite, de fasciste, tordant complètement mon propos. Il y a vraiment cette dissonance où les gens ont l'impression que, comme c'est notre voix, comme on parle, on donne notre avis personnel. Alors qu'en fait, notre travail, c'est de synthétiser et de présenter l'état d'un débat. Si jamais je m'en lançais sur une vidéo de la place de la femme dans les sociétés préhistoriques et que je présentais l'état du débat, je sais pas, justement entre un Alain Testard et une Marianne Tatoumatis, ce serait une expérience à faire. Je pense que ce serait très très virulent dans les commentaires également.
Tes convictions, elles se ressemblent dans tes choix de vidéos, ou bien est-ce que tu essayes de garder une certaine neutralité ?
Il n'y a pas de neutralité dans mes vidéos. Simplement parce que on peut très vite sentir à mon intonation. Parfois, je me moque ouvertement d'anciens dirigeants, enfin d'hommes politiques, notamment l'ancien maire de ma ville, Gérard Collomb. Il y a une vidéo qui démarre à partir d'une de ses proclamations à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, voilà, mon orientation politique, elle se sent, mais parce qu'en fait, elle est pas cachée. Mais je veux pas non plus parler de moi, parler de ma vie. Ensuite, dans le choix des sujets, je n'ai pas de critères. Moi, le but de la chaîne, c'est montrer une diversité de sujets. Il y a ce côté, comment vivent les autres, comment ça se passe ailleurs. C'est ça la ligne éditoriale de la chaîne. Donc, à la fois, quand je réfléchis à un sujet, je suis pas en train de me demander quel est le sujet à la mode, quelle est la tendance dans la société. Je m'en contrefous, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de parler des choses qui m'intéressent en ce moment. C'est très très égocentrique, mais je sais que ce plaisir que j'ai à travailler un sujet, il se transmet par l'image et par le son de ma voix au moment où je l'enregistre, parce que ça m'intéresse et je mise sur cette empathie-là. Aussi, voilà, je pense pas les sujets seuls, je les pense avec un homme qui est mon compagnon et qui a aussi des préférences aussi. Alors, on se bataille jamais pour le choix des sujets, de toute façon, c'est moi qui ai le dernier mot. On discute par intérêt, par curiosité, et souvent, en fait, le genre n'intervient pas dans notre choix. C'est plus, quel est le sujet, quelle est la civilisation dont on n'entend jamais parler. Donc, moi, je peux glorifier sur ma chaîne de parler de la civilisation de l'Indus et de la cité d'Harappa. Et il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube qui se lancent là-dedans. En revanche, sur ma chaîne, il n'y a aucune vidéo sur les rois de France, sur Louis, machin. J'en peux plus, moi, de ces figures, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas non plus Jeanne d'Arc, ça ne m'intéresse pas. Enfin, en fait, j'estime qu'il y a assez de trucs. Voilà, Passé sauvage est né aussi d'un espèce de... d'une fatigue... de la prédominance de certains sujets, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes figures, et donc on va vraiment chercher ailleurs, loin, un espèce d'exotisme. Et moi je sais que quand j'ai démarré la chaîne, j'ai pas du tout surfé sur le fait que j'étais une femme. J'ai pas du tout pris à partie un public féminin. Ma manière de faire, c'est d'estimer que... C'est un peu fonctionné en sous-marin. C'est-à-dire que je sais très bien que le genre est un énorme sujet. Et en fait, je vais essayer de faire avancer les choses à ma toute petite échelle sans jamais le prononcer. D'une manière un peu manipulée, il y a un peu de manipulation derrière. Je vais pas dire « je vais faire de l'archéologie » pour les femmes. Je vais faire l'histoire des femmes. Je vais surtout... Parce que, voilà, c'est une autre tactique. C'est, par contre, je vais essayer de, moi, m'imposer une voix de femme et un visage de femme avec une discipline scientifique où on ne remet jamais en question ma place. Donc, c'est plus... le boulot, c'est plus comment s'imposer sans jamais que les gens s'en rendent compte un peu. Il y a un truc un peu en sous-marin. Mais après, c'est vrai que c'est une critique qu'on peut me faire. Je pourrais plus parler de figures féminines. Je vais notamment préparer une des prochaines vidéos de la chaîne sera justement sur les femmes celtes. Donc, on verra ce que la bibliographie a à nous offrir.
Peut-être une dernière petite question bonus. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire des fouilles à l'étranger ?
Non, parce que pour le coup, en France, on n'est pas trop mal lotis. L'archéologie est quand même assez bien, très bien structurée, avec des moyens. Fouiller à l'étranger, c'est compliqué. Ou alors, il faut être vraiment attaché. Enfin, il faut être déjà professionnel. Non, j'ai jamais fouillé à l'étranger. J'ai fouillé, moi, à Narbonne plusieurs années, en Bretagne, à Trédion, Nord-Morbihan. J'ai fouillé en région Rhône-Alpes.
Et qu'est-ce que t'as fouillé en Bretagne, plus précisément ?
En Bretagne, j'ai adoré ce chantier. J'étais sur la fouille de Philippe Gouezin et on fouillait du mégalithisme et notamment donc des cairns qui ont été dans la forêt des Landes de Lanvaux. Et ce sont des structures qui ont été évidemment pillées et réutilisées plus tard aussi par les sociétés celtes. Mais ce sont on voit que ce sont aussi des constructions qui ont été très vite destituées, c'est-à-dire considère que ces structures-là, c'est une croyance dont on ne veut plus, où les menhirs ont été abattus, comme on dégommait les têtes des rois sur des Jésus sur les églises, ce genre de choses. Donc ça, c'était super intéressant. Et on est allé, du coup, filmer la suite de ces fouilles, donc 10 ans après que moi j'ai fouillé là-bas, cet été, et ils ont fait des super découvertes. C'était bien. C'est bien aussi la diversité des fouilles. Enfin, je pense que quand on est apprenti archéologue, il faut fouiller de l'antique, il faut fouiller du proto, de la préhistoire. Il faut se familiariser avec tout type de terrain. Voilà, c'est marrant, quoi. C'était une fouille, non pas à la truelle, mais au sécateur. On passait nos temps à couper des racines.
Nous remercions Clotilde Chamussy d'avoir présenté son travail et sa vision de la vulgarisation en archéologie. On espère que vous en avez appris un peu plus sur cette façon de transmettre cette discipline. À noter ce mois-ci, Mission Archéo, la nouvelle émission à retrouver sur la chaîne de Passé Sauvage pour s'immerger dans l'ambiance d'un chantier de fouilles et montrer les petites mains de l'archéologie.
Voilà, c'était la suite de l'entretien avec Clotilde. Vous retrouverez d'ici quelques semaines le dernier épisode réalisé par les étudiants du Master Médiation du patrimoine et de l'histoire des territoires, en compagnie cette fois de Mathieu Écrabé. Je ne vous en dis pas davantage. D'ici là, le comité de soutien du Musée de la Préhistoire Finistérienne vous invite à découvrir la Préhistoire et l'ethnographie du sel avec Pierre Gouletker le samedi 15 avril à 14h30 à la Maison pour tous de Pinmar. Et de notre côté, nous repartons à travers la région Bretagne pour vous dénicher le meilleur de la médiation en archéologie avec Truelle et Sac à dos. À bientôt sur Radio Évasion ou sur votre plateforme de podcast préférée.